Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission qui combine technique et agilité pour partager la passion du code. Aujourd'hui, je suis avec JP Lambert. Jean-Pierre, bonjour.
Salut.
Ravi de t'avoir à nouveau sur le podcast. On discutait à midi du TDD, de comment est-ce qu'on en est arrivé à adopter le TDD, ou pas d'ailleurs. Et tu me challengeais là-dessus en disant, mais au fond, qu'est-ce qui amène les développeurs à se mettre au TDD? Et c'est une vraie question. En tout cas, j'ai pas la réponse ultime, sinon le monde entier coderait en TDD, mais c'est pas le cas, force est de constater. Ce qu'on constatait, c'est que ça partait quand même de, à un moment donné, on constate que la maison brûle, quoi.
Ouais.
Comment tu vois, toi, les choses dans tes équipes et quel recul tu as sur ça?
Alors, effectivement, ce qui se passe, c'est sûr, c'est effectivement la maison brûle, on n'arrive pas à mettre en prod. Dès qu'on met en prod, c'est une régression, on rollback, on recorrige, on y repart pour un tour et ça en finit pas. Voilà, pour plein de raisons qu'on imagine bien, on n'a pas de test, on n'est pas rigoureux, on écrit mal le code, on ne fait pas de TDD, etc. Et donc, enfin, en général, quand on est dans cette situation-là, oui, on fait quelque chose, on réagit, quoi.
Ah oui, la maison brûle.
Voilà, donc on réagit, on fait quelque chose. Et potentiellement, on va quand même se mettre à faire plein de choses très bien. On se remet à travailler, d'être un peu plus carré, à réfléchir à qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, à écrire des tests, à automatiser les tests, ou simplement les faire, parce que parfois, on faisait juste aucun test, même pas manuel. Donc, on fait quand même plein de choses, et les choses vont mieux. Mais on se retrouve pas forcément à faire le TDD. Voilà, on va se mettre à quand même faire des tests unitaires, on va le mettre dans Definition of Done, il doit y avoir des tests unitaires, il doit y avoir un coverage même qui est assez élevé, parfois même ils disent 100% ou en tout cas 100% sur la partie vraiment core, les règles métiers, business, etc. Et mais on va pas faire le TDD, quoi, parce que finalement, même si on imagine le truc, on entend le nom, hein, ça plane, on sait, mais c'est chaud, quoi, c'est compliqué. Donc on se dit, ouais, le reste des trucs, on les a fait, on voyait la valeur que ça nous apportait. Et puis finalement, maintenant, la maison, elle brûle plus. Pourquoi est-ce qu'en plus, on passera au TDD alors qu'en fait, c'est super exigeant et on est face à des gens qui sont en fait pas persuadés de la valeur que ça va leur apporter. Et il n'y a aucun doute sur le fait que ça va être compliqué à adopter. Et le pain point principal n'est plus là. En tout cas, c'est plus le même. Celui qu'on avait avant, il est plus là ou plus aussi fort.
Non, c'est clair. Et d'ailleurs... Juste, on va rembobiner à deux secondes quand tu dis les gens le mettent dans le DOD. Moi, je faisais le constat que ça ressemblait plus souvent à un vœu pieux qu'à une réalité. Tu as sûrement plus d'expérience en ayant vu pas mal d'équipes. Comment est-ce que tu dirais que oui, c'est vraiment mis en œuvre ou?
Non, j'ai quand même vu souvent vraiment, vraiment mis en œuvre. Elles font ce qui est écrit dans leur definition DOD. Alors, effectivement, il y a des fois où le DOD, c'est un peu de la fumisterie, et on le fait pas, mais globalement, la plupart du temps, les gens le font. Mais effectivement, moi, ça me fait un peu bondir, parfois, de les voir qui poussent très, très, très low leur coverage, leur couverture de code.
En partant de zéro.
Et qu'ils fassent toujours pas de TDD, quoi. C'est-à-dire que, donc, ils ont cette exigence-là qui est très forte, quoi. C'est vraiment, ils envoient les mecs dans leur camp quand ils passent une pull request et il n'y a pas 100% de coverage. Non. Sur cette partie-là, sur ce module-là, 100% de coverage, point barre. Et ils sont super stricts là-dessus. Ah mais, oui. Ils passent pas au TDD, quoi.
Tu vois ce genre de choses. C'est-à-dire que le code, vraiment, s'il n'est pas couvert.
Ils les écrivent, alors, pas forcément après. Parfois, ils écrivent en même temps, mais en tout cas, ils sont pas dans cette rigueur du TDD. Et parfois, ils les écrivent même carrément après, les tests, mais clairement, ça passe pas à la phase du code review, il n'y a pas de merge, tant qu'ils n'ont pas atteint leur DOT, qui est 100% de coverage, en tout cas sur ce module-là. Mais, et pourtant,
ils font pas du
toujours pas, il y a toujours pas ce truc de se dire, donc en plus, si tu leur en parles, ils vont te dire, ouais, il faudrait, ou moi, j'y crois pas, je suis pas persuadé de la valeur, ou...
Il y a un point que tu soulèves là, qui est très intéressant, c'est qu'on est, encore dans un acte de foi, en fait, avec le TDD.
Ouais.
Il y a encore des gens qui y croient ou qui y croient pas. Ce qui me paraît, j'ai du mal parce qu'une fois que tu l'as vécu, c'est plus une question de croyance. Remarque, peut-être que ceux qui ont une illumination, c'est pareil pour eux, j'en sais rien. Donc peut-être qu'on reste effectivement dans le, mais en tout cas, je constate qu'il y a ce langage-là, j'y crois pas, ça marche pas, c'est pas pour nous.
Quand tu dis illumination, je pense que le terme est bien. Moi, j'utilisais pendant longtemps ce terme-là. Illumination, c'est qu'il y a, un moment, en tant que développeur, vis-à-vis du test, il y a un moment où on a l'illumination, quoi. On se rend compte que, c'est la base du travail de développeur, le test. Et que c'est pas un truc à côté, annexe pour quelqu'un d'autre ou qu'on fait si on a envie ou qu'on a le temps. Et que c'est plutôt la base. Donc déjà rien que ça, pour moi, je divise en deux un peu les catégories de développeurs, quoi. C'est celui qui ont eu cette illumination et ceux qui n'ont pas eu. Non, effectivement, non, je te dis, ils ont pas illumination sur le TDD. Après, tu dis, enfin, ça, les choses avancent quand même parce que quand on rembobine peut-être 10 ans en arrière, c'était pas une évidence non plus qu'il fallait l'intégration continue, qu'il fallait faire des tests unitaires. Alors que là, aujourd'hui, c'est quand même plutôt établi comme c'est clair et net que ça doit être là et que ça doit être fait. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde le fait, mais je pense que ça, c'est vraiment passé, c'est mainstream. Ouais. Par contre, d'aller jusqu'au TDD, c'est pas encore mainstream le TDD, clairement. Je ne sais pas si ça le deviendra parce que la marche est haute. Après, dans ce qu'on disait, ce que tu me disais, c'est quelqu'un qui est nouveau au code, qui est nouveau développeur et qu'on le formate. Enfin, qu'on le formate, c'est pas le bon terme, mais qu'on lui a...
Qu'on le forme
directement avec ça. Il a aucun problème avec ça et c'est probablement très vrai. Moi, ce que je t'ai répondu, c'est, moi, à l'université, on m'a appris d'abord la programmation fonctionnelle et après l'impérative et j'ai eu aucun problème à programmer en fonctionnel. Alors qu'effectivement, ce qu'on voit dans le marché, c'est que ceux qu'on fait plutôt 10 ans d'impératif en Java ou en C, c'est compliqué de se dire, maintenant, je fais du fonctionnel. C'est un changement de mindset. Et finalement, quand on inculque le bon mindset au début, c'est pas plus dur.
Voire même, il y a une population qui m'a agréablement surpris. C'est tous les gens qui sont en reconversion. En fait, je les vois se poser beaucoup de questions sur, parce que sûrement, je mets ça sur le compte de la maturité. Quelqu'un qui est en reconversion, qui a 30 ans, 40 ans. Mmh. Je pense un peu de vécu, un peu plus de recul, plus de maturité. Et je constate que finalement, qu'on soit débutant dans le métier, c'est orthogonal, voire même, en fait, c'est même plus facile pour des personnes qui sont en phase d'apprentissage, parce qu'il n'y a pas le biais de dire, maintenant j'ai 3 ans, 5 ans, je suis expert de ma techno, et qui c'est ce mec qui va venir m'apprendre à, qui vient chambouler ma manière de réfléchir. Et il y a même, je trouve, un frein. Finalement, tant que t'as pas un peu ramé, j'ai l'impression que soit t'en as vraiment chié, et à un moment donné, tu te dis, c'est fini, ça c'est niette et je veux que mon quotidien soit un quotidien épanouissant. Et ça, assez naturellement, tu vas tendre une oreille au discours TDD parce que ça t'amène à du feedback très rapide, ça t'amène à une vraie maîtrise du code et tu es en totale maîtrise de ce que tu fais et ça c'est juste passionnant. Ou alors, tu as ceux qui arrivent à prendre le truc très tôt parce qu'ils ont un mentor, parce qu'ils sont sensibles à ça. Mais il faut reconnaître que c'est quand même très très loin, tu me parlais d'être mainstream. Je sais pas, je pense que s'il y a 5% des gens qui codent en TDD, ça me paraît déjà énorme. Je pense que c'est même ça largement surévalué.
Clairement.
Je pense qu'on est à moins d'1%, tu vois, des gens, et encore.
Ils le font vraiment, ouais.
Peut-être 1 pour 1000 même, en fait. Tu vois, donc,
Ouais. Après, toi, dans ce que tu dis, oui, il y a vraiment l'aspect, ressortir les mêmes schémas de pensée. C'est-à-dire que finalement, t'as pas mal de devs qui sont peut-être les premiers à se plaindre d'une gestion de projet ou d'une gestion de management à l'ancienne très, faut livrer, tu me fais pas de test, ça a pas de valeur, etc. Et en même temps, ils vont reproduire exactement le même schéma. C'est-à-dire qu'ils vont te dire la même chose, quoi. Ouais, mais non, mais ça m'apporte quoi, etc. Alors qu'effectivement, c'est des schémas assez différents. En fait, ça, y a pas de sens à se dire, en fait, on va plus vite quand on fait de la qualité, quoi, tout simplement. Et ça, la plupart des gens n'ont pas eu cette réalisation, quoi.
Non, parce que...
C'est toujours à se dire que la qualité a un coût, alors que ce qui a un coût, c'est la non-qualité.
En fait, le truc, c'est que ça vient d'où, ça? C'est que la qualité a un coût parce qu'on a cette image du monde physique où faire des choses de qualité, tu vois, ta Ferrari qui va être faite à la main avec des matériaux nobles va coûter plus cher. Pour moi, ça vient de l'industrie, alors que nous, on fait quelque chose qui est dématérialisé.
On peut débattre, est-ce que c'est ça la qualité?
Moi, je te parle de qualité intrinsèque. Je te parle de faire quelque chose intrinsèquement de bonne qualité, de bonne facture. J'ai pris Ferrari, mais ça peut être une image luxueuse. On peut prendre les Allemandes qui ont la réputation d'une qualité intrinsèque forte. Si on fait la métaphore avec une bagnole. Mais il y a cette image quand même que si tu payes plus cher, tu vas avoir quelque chose de meilleure qualité. Et que implicitement, le prix est corrélé à la qualité que tu payes. Et d'ailleurs, parfois, le même produit positionné simplement plus cher.
Ouais, ouais. Donc, c'est un biais naturel.
C'est un biais cognitif qu'on a. Et du coup, c'est complètement à l'envers de cette pensée-là de dire, ben en fait, faire de la qualité nous permettra d'aller plus vite et de gagner du temps. Mais ça, c'est possible parce que on est sur quelque chose qui est immatériel. Et ça, je pense qu'il y a très très peu de gens qui l'ont compris. Et d'ailleurs, Ken Beck le dit bien, et j'ai une citation de lui, il faudra que je la recase. En faisant de la qualité, on va plus vite, quoi.
J'ai une phrase de Constantin sur le sujet aussi, c'est la qualité d'aujourd'hui, c'est notre productivité de demain.
Je l'aime beaucoup celle-là et je te propose que ce soit le mot de la fin. Merci Jean-Pierre d'être venu aujourd'hui.
Avec plaisir.
Si les auditeurs veulent en savoir plus, ils viennent où ?
Ils peuvent aller sur mon blog jp-lambert.me et puis il y a toujours évidemment Scrum Life qui continue à avoir toujours plus d'abonnés. On a passé les 3500 l'air de rien.
Yeah, bravo. Merci Jean-Pierre. Quant à toi cher abonné, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Si c'est le cas, je t'invite à le manifester en mettant 5 étoiles dans la plateforme de podcast de ton choix. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud, t'as le choix, va où tu veux, mets-nous, s'il te plaît, une bonne étoile, 5 même en l'occurrence, et avec un petit commentaire sympa, ça sera génial, et ça permettra de faire connaître le podcast. Je te remercie, et à demain.